Chapitre 27. Aux portes de la ville de pierre. Béli, le conseiller d'Amine, entra dans le grand bureau de la reine de Galatie. Le valet qui attendait à côté de la porte l'annonça, mais Amine, assise sur un fauteuil, ne bougea pas et resta silencieuse, comme si elle ne les avait pas entendus. Le valet adressa à Béli un regard gêné, mais celui-ci lui fit signe de les laisser seuls. Le serviteur s'inclina et sortit discrètement. Béli poussa un long soupir. Cela faisait plusieurs jours que le comportement de la reine était de plus en plus étrange. Elle était capable de rester plusieurs heures sans parler, et parfois on l'entendait murmurer, comme si elle discutait tout bas avec un interlocuteur invisible. Béli traversa le bureau et vint s'asseoir en face d'elle. « Vous m'avez appelée, Majesté ?» demanda-t-il en posant les mains sur les accoudoirs dorés. Mais Amine ne le regardait pas. Les yeux fixés sur le sol, elle semblait ne pas le voir. Béli attendit sans rien dire. Depuis qu'elle avait été initiée par les druides, l'humeur de la reine semblait se dégrader de jour en jour. Au début, Béli s'était demandé si les druides n'allaient pas lui prendre sa place auprès de la souveraine. Il avait eu peur que son rôle à la cour ne soit plus que représentatif, mais à présent son inquiétude était tout autre. La reine était-elle en train de devenir folle? La porte est-elle fermée? Demanda Amine sans lever les yeux. Béli, bien qu'il en fût sûr, tourna la tête pour vérifier. Oui, Majesté, elle est fermée. C'est vous qui l'avez fermée, insista-t-elle. Non, c'est le valet en sortant. Alors j'aimerais que vous alliez vérifier qu'elle est bien fermée. Béli se leva, partit vers la porte, l'ouvrit et la referma en s'appliquant à faire suffisamment de bruit pour que la reine entende. Il revint s'installer en face d'elle. « Voilà, Majesté, elle est bien fermée à présent. »« Tant mieux. » Puis elle redevint silencieuse. Elle n'avait pas bougé. Son regard était tellement figé qu'on avait l'impression qu'elle ne clignait jamais des yeux. Mais ce n'était pas la première fois que Béli la voyait dans cet état. Alors il essaya de ne pas s'inquiéter. Il voulait se faire croire que tout était normal. Vous avez entendu parler d'Aléa, Béli. Le conseiller se redressa sur son fauteuil. Il avala sa salive. Oui, bien sûr. Pourquoi bien sûr? S'étonna la reine en levant enfin les yeux vers son interlocuteur. Mais parce qu'on parle beaucoup d'elle dans le royaume, Majesté. Amine acquiesça. Oui, beaucoup d'elle. Vous croyez que les gens connaissent mieux Aléa qu'ils ne me connaissent moi?
Vous êtes la reine de Galatie, répliqua-t-il.
Ce n'est pas une réponse, Béli. Le conseiller se racla la gorge.
Les gens vous connaissent. Ils savent que vous êtes la reine et que vous êtes la première druidesse, Majesté. Alors qu'Aléa, personne ne la connaît vraiment. C'est plutôt une légende.
Oui, peut-être. Mais moi, je la connais. Rétorqua Amine en baissant de nouveau les yeux. Béli resta silencieux. Il avait en effet entendu des rumeurs à ce sujet. Aléa et Amine Salia, reine de Galatie, auraient grandi dans le même village. Mais il n'y avait jamais vraiment prêté attention. J'étais sa meilleure amie, vous savez. Nous étions inséparables, Béli. Plus proches encore que deux sœurs jumelles. Mais vous ne pourriez pas comprendre. Elle poussa un long soupir. Béli croisa les mains devant sa bouche, les coudes posés sur ses genoux. Il regardait la reine. Il essayait de la voir avec un peu de compassion. Il aurait voulu comprendre. Elle était si jeune, et déjà tellement abîmée par la vie. Tout comme sa santé mentale, son apparence s'était dégradée dans les derniers jours. Elle n'attachait plus ses longs cheveux blonds. Parfois, elle ne changeait pas de vêtements pendant plusieurs jours. Elle portait d'horribles robes froissées. Elle qui avait été jadis si délicate, si gracieuse. Elle qui, en arrivant au palais de Providence, s'était si souvent promenée nue au balcon de sa chambre pour montrer à la cour combien la femme du roi était belle. Il aurait tant voulu comprendre.
Amine, dit-il timidement. Amine, que vous arrive-t-il?
La reine se redressa. Appuyée contre le dossier de son fauteuil, elle dévisagea Belli un long moment.
Le Saïman,
chuchota-t-elle enfin.
Oui. Les druides avaient raison.
Elle ferma les yeux et inspira profondément.
Je ne peux pas toucher le Saïman.
Quand tout le monde eut mangé et que les soldats de la garnison de Sarban se furent intégrés au reste des troupes, alors que la plupart partaient déjà vers leurs couches afin de pouvoir se lever tôt, Aléa emmena Fingin, Tagor, Fario et Erwan à l'écart.
Je veux aller cette nuit en secret dans Tarnéa pour voir quelle est la situation,
leur dit-elle d'un ton solennel. J'ai longuement hésité à y aller seule sans vous prévenir, mais je me suis dit que si vous découvriez mon absence, vous vous mettriez à paniquer. Je préfère donc vous prévenir, et éventuellement que l'un de vous m'accompagne.
Tu veux espionner dans Cré ? S'étonna Fingin.
Ce n'est pas très prudent.
Ne peut-on pas envoyer un ou deux soldats à ta place ?
Non, Fingin. Je crois que je suis la mieux placée pour ce genre de mission.
Vraiment ?
Aléa poussa un soupir. Elle posa un regard circulaire sur les hommes assemblés autour d'elle. Elle ne voulait pas discuter. Pas de cela. Elle en avait assez de devoir se justifier tout le temps et qu'on veuille ainsi la protéger chaque fois qu'elle prenait une décision. Je me suis longuement débrouillée seule, Fingin, sans armée. Et il m'est même arrivé d'avoir à jouer les espionnes, dans un conseil que tu connais bien d'ailleurs. Je m'en suis plutôt bien sortie.
Je vois, répliqua le druide en grimaçant.
J'irai donc ce soir à Tarnéa. Inutile de discuter.
Je vais t'accompagner, petite sœur, proposa Tagor.
J'aimerais venir aussi, ajouta Erwan aussitôt.
Je connais déjà Tarnéa, intervint le capitaine Fario. Je pourrais te guider dans la ville.
Aléa se mit à rire. J'en étais sûre. Ils veulent tous venir maintenant. Merci, les amis, mais je pense sincèrement que nous serons bien assez à deux.
Dans ce cas, reprit Fingin, il vaut peut-être mieux que ce soit Fario qui t'accompagne, en effet. S'il connaît la ville, vous gagnerez du temps.
Aléa acquiesça. Allez vous préparer, capitaine. Le garde hocha la tête et partit chercher ses affaires. Fingin et Tagor retournèrent vers le campement, mais Erwan, lui, resta devant Aléa. Il prit la jeune fille dans ses bras.
« Je suppose qu'il est inutile que je te demande de faire attention, » murmura-t-il à son oreille.
« Ce n'est pas inutile. C'est toujours agréable de sentir que quelqu'un tient à soi. »
« Des gens qui tiennent à toi, Aléa, ce n'est pas ça qui manque. »
Elle sourit et déposa un tendre baiser sur la bouche du magistel. Puis elle fit volte-face et partit rejoindre Fario. Elle avait déjà tout planifié dans sa tête. Ils s'éclipsèrent le plus discrètement possible du camp, non pas pour se cacher des soldats de la terre, mais plutôt dans l'espoir que les guetteurs qui les espionnaient probablement ne les verraient pas partir. Ils s'étaient l'un et l'autre entièrement couverts de vêtements sombres et avaient passé sur leur visage un peu de charbon pour se noircir la peau. Tenant leurs chevaux par les rênes, ils firent un long détour par le sud pour contourner la zone où les guetteurs étaient vraisemblablement postés. Quand ils estimèrent qu'ils étaient assez loin, ils montèrent sur les deux grands étalons noirs et partirent au galop, fonçant droit devant eux pour aborder la capitale par le sud. Ces chevaux étaient sans doute les deux plus rapides que les Sarrois avaient offerts à l'armée de la Terre. Et l'impression de vitesse que procurait la course à travers cette nuit noire d'automne était grisante. Aléa réalisa qu'elle avait le sourire aux lèvres. Le vent faisait pleurer ses yeux, mais elle avait en vérité le cœur léger. Elle regarda autour d'elle, essayant toutefois de ne pas perdre l'équilibre. Il n'y avait que Fario sur sa droite, personne d'autre. Cette solitude, au fond, lui faisait un grand bien. Elle se sentait libre, débarrassée de son armée, de ses responsabilités. Ce n'était que pour un court moment, mais c'était bon. C'était confortable. Oublier juste le temps d'un galop les 1000 hommes qu'elle emmenait au combat, les 1000 regards et les pires souvenirs. Les amis perdus,
Laissez derrière soi tout ça et ne pensez qu'au moment présent. Il n'y avait qu'elle et le vent. Le bruit simple des sabots qui battaient la terre. Le grincement du cuir. Les coups sourds de son cœur. Son esprit flottait comme dans un rêve quand soudain Fario se mit à tirer sur les rênes de son cheval pour l'arrêter. Se ressaisissant aussitôt, Aléa l'imita. Les deux étalons s'arrêtèrent péniblement tant ils avaient pris de vitesse. Ils passèrent d'abord au pas, puis ils s'immobilisèrent l'un à côté de l'autre en soufflant bruyamment.
« Tarnéa est juste de l'autre côté de cette colline, » expliqua le capitaine. « Laissons les chevaux ici et finissons à pied. »
Aléa descendit aussitôt de son cheval en hochant la tête. Le capitaine mit pied à terre à son tour, prit une corde à l'arrière de sa selle et partit attacher les deux étalons à un arbre en retrait. Ils avancèrent prudemment vers le sommet de la colline. Ils étaient encore loin de Tarnéa, mais il y avait sûrement des postes de garde tout autour de la ville, et mieux valait ne pas être repérés. Leur expédition était fort dangereuse. Aléa ne pouvait se permettre de se faire prendre par l'ennemi. L'armée de la terre aurait probablement perdu sa cohésion sans elle. Essayant de ne faire aucun bruit, il cherchait le chemin le plus discret, passant derrière les futaies et les quelques rochers qui s'étalaient sur la colline du puits. Contrairement aux autres capitales, Tarnéa n'avait pas été construite en hauteur, mais dans le creux d'une vallée, entourée de petites collines d'où l'on pouvait l'admirer. La nuit était fort sombre et on ne voyait pas grand-chose. Mais c'était plutôt un avantage, car Aléa et Fario espéraient ne pas être vus. Dans leur costume noir, ils souhaitaient profiter de cette obscurité. Ils arrivèrent bientôt en haut de la colline et entamèrent la grande descente qui plongeait sur la ville en accélérant le pas. Soudain, dépassant un bosquet touffu, ils aperçurent la capitale en contrebas. Malgré le peu de lumière, on distinguait cette mer de vieux toits couverts de tuiles canales. Et au centre, émergeant des rouges couvertures, la tour élégante du château de Tarnéa. C'était autour de ce vieil édifice que la ville avait été construite et qu'elle s'étendait au nord du Célé, rivière en lit de roche. On avait érigé plus tard un grand mur fortifié qui encerclait la vieille cité et que l'on appelait le quai. Puis, à mesure que la population s'était accrue, trois nouveaux faubourgs étaient venus se coller à l'enceinte. Le faubourg d'Ojou à l'ouest, celui du Pin à l'est, et au sud, de l'autre côté de la rivière, on pouvait rejoindre le faubourg Martin par le pont du Griffoul.
À votre avis, Fario, par quelle porte la ville est-elle la plus vulnérable ?
Le capitaine réfléchit un instant.
Dancré a sûrement pris le château. C'est là que nous devrons le battre. Or, le château est au sud de la ville, presque au bord du Célé. On pourrait donc attaquer par le sud s'il n'y avait cette rivière qui est un obstacle trop grand. Tous nos hommes seraient obligés de passer par le pont du Griffoul et seraient bien trop exposés. Non. Je crois que le mieux serait d'attaquer par l'est, par le faubourg du Pin. La porte qui s'y trouve est la plus proche du château.
Aléa acquiesça. Elle n'avait jamais visité la capitale, pourtant proche de son petit village, et elle avait du mal à se rendre vraiment compte. Elle était obligée de faire confiance au capitaine.
Le seul problème, reprit Fario, c'est le canal qui traverse le faubourg en venant de l'estang, à l'est du château, par la porte du Pin.
Pourquoi est-ce un problème ?
Il nous barrerait la route si jamais nous devions fuir.
Aléa fit une moue amusée.
À moins, au contraire, qu'il puisse être un atout. Emmenez-moi voir ce canal, demanda Aléa. Al-Markaïn avançait seul à travers la Gaëlia, comme un être sans vie. Le regard perdu, le visage blafard, les gestes lents, maladroit presque. Maol Morda l'avait transformé, et Almar n'en avait peut-être pas tout à fait conscience. Il se laissait porter par sa nouvelle condition, marchait tout droit, sans penser. Au premier soir, il n'éprouva aucune fatigue. Incapable de trouver le sommeil, il décida de reprendre la route et marcha toute la nuit, puis la journée du lendemain. Au soir du deuxième jour, il se rendit compte qu'il n'avait pas mangé. Et pourtant, il n'avait pas faim. Encore une fois, il ne put trouver le sommeil, ses yeux refusant de se fermer, et il reprit la route. Il ne s'arrêtait jamais, ne parlait à personne, foulant la terre le regard fixe, ne sentant ni la chaleur du soleil, ni le souffle froid du vent. Il ne pensait qu'à avancer. Après plusieurs jours, toutefois, en plein milieu d'un après-midi ensoleillé, il s'écroula sur le sol. Il tenta de se relever, mais ses membres ne répondaient pas. Il attendit un instant, le visage écrasé contre la poussière de la lande, puis il parvint à se redresser. Assis par terre, il s'essuya instinctivement le visage. Quand il regarda sa main, il vit alors une trace de sang. Il se toucha le front et sentit le liquide poisseux sous ses doigts. Il s'était ouvert le crâne dans sa chute. Mais il n'avait rien senti. Il ne souffrait toujours pas. C'était comme si ses sens avaient disparu, ou s'étaient séparés de son corps, incapable de l'entendre, de le comprendre. Ses muscles étaient en réalité épuisés, sans force. Mais il ne le sentait pas. Son organisme tout entier avait besoin d'un sommeil régénérateur, mais il ne le sentait pas. Sa gorge, irritée, demandait la douceur de l'eau. Mais cela non plus, il n'en avait pas conscience. Maol Morda avait fait de lui un être dépourvu de sensations. Un vivant, dans un corps mort. Quand il comprit enfin ce qui lui arrivait, Almar éclata de rire. Son rire se transforma en toux, et il se mit à cracher du sang. Seul au milieu de la lande, il se demanda s'il ne devenait pas fou. Ni douleur, ni plaisir. Avancer seulement. Il resta un long moment assis dans le sable gris. Le sang avait coulé sur un de ses yeux qu'il ne parvenait plus à ouvrir. Le monde semblait tourner autour de lui. Soudain, il crut apercevoir au sud deux cavaliers qui approchaient au galop. Il cracha par terre et perdit connaissance. Quand il se réveilla, il était allongé sur un petit lit de bois, dans ce qui ressemblait à un abri de berger. Un homme à côté de lui était en train de préparer à manger dans l'âtre d'une cheminée, et un autre, assis sur un banc, semblait faire une sieste. Almar se redressa. Il vit que ses mains étaient propres. Il passa les doigts sur son front et sentit un bandage. Les deux hommes l'avaient soigné.
« Restez couché !» lui conseilla l'homme devant la cheminée. « Vous êtes encore bien pâle. Je vous prépare une soupe qui devrait vous remettre sur pied. »
Almar regarda le récipient dans lequel cuisinait l'inconnu. Il en sortait une fumée épaisse. La soupe dégageait sûrement une odeur délicieuse, mais il était bien incapable de la sentir. Le boucher se leva, approcha de l'inconnu en boitant et prit le récipient qui pendait au-dessus du feu.
« Vous êtes fou !» s'exclama le pauvre homme. « Vous allez vous brûler !»
Almar ne lui adressa même pas un regard et avala la soupe bouillante d'une seule traite. Le deuxième inconnu fut réveillé par les cris terrifiés de son compagnon.
« Que se passe-t-il »
balbutia-t-il à moitié endormi. Almar jeta le récipient par terre et sortit de l'abri sans dire une parole et sans se retourner, comme si les deux hommes n'avaient pas été là. Puis il repartit vers le nord, les yeux rivés sur l'horizon, entendant à peine les insultes que lui jetaient les bergers derrière lui. À présent, il savait. Il devait manger et se reposer, malgré lui. Soit, mais cela ne changerait rien. Le boucher avançait vers Providence. Le capitaine Fario et Aléa coupèrent à travers champs pour rejoindre au sud-est de la ville le pont du Pin, où ils pourraient traverser le Célé. Une grande ferme et un hôpital s'élevaient juste avant le pont, et Fario proposa de faire le tour par l'est.
« Il y a sûrement des chiens dans la ferme, je ne voudrais pas les faire aboyer », expliqua le capitaine en faisant signe à Aléa de le suivre.
Le dos courbé pour se faire les plus petits possibles, ils traversèrent un grand champ de blé, passèrent de l'autre côté du chemin qui longeait la rivière et s'approchèrent de l'eau.
« On va marcher le long de la berge, jusqu'au pont. »
Aléa acquiesça en silence. Elle suivait le capitaine sans rien dire, faisant attention à chacun de ses pas. Ils marchèrent au bord de l'eau, se faufilant entre les buissons. Quand ils arrivèrent au pied du pont du Pin, Fario fit signe à Aléa de l'attendre un instant. Il grimpa sur la butte et disparut derrière le muret qui longeait le chemin au-dessus d'eux. Il réapparut bientôt et tendit la main à Aléa.
« La voie est libre !»
La jeune fille escalada à son tour, aidée par le capitaine, et le rejoignit sur le pont. Il lui fit signe de s'accroupir. Recroquevillés, ils avancèrent l'un derrière l'autre sur le grand pont de pierre. On entendait en dessous le bruit de la rivière qui s'écoulait vers l'ouest. Quand ils furent à mi-chemin, le capitaine s'immobilisa soudain et posa une main sur l'épaule d'Aléa pour l'inciter à se courber encore plus.
« Baisse-toi, voilà quelqu'un !»
chuchota-t-il. Mais c'était trop tard. L'homme de l'autre côté du pont les avait sûrement aperçus. Il avançait vers eux, d'un pas hésitant.
« Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Fario, embêté. « On se débarrasse de lui ou on s'enfuit ?»«
Il y a peut-être une autre solution, » suggéra Aléa. « Nous ne sommes pas sûrs que ce soit un ennemi. »
Elle leva la tête pour regarder l'inconnu par-dessus les épaules du capitaine.
« Ça n'a pas l'air d'être un soldat de la flamme. »
Et sans demander son avis au capitaine, elle se leva.
« Qui va là ?»
s'exclama l'inconnu en faisant un pas en arrière.
« Nous sommes Sarwa, »
répondit Aléa, qui avait reconnu l'accent de la région dans la voix de son interlocuteur. Il marcha vers eux. Cela ne servait plus à rien de se cacher, et Fario se leva en poussant un soupir.
« Est-ce bien l'hirondelle sur votre plastron ?»
demanda l'inconnu en plissant les yeux pour mieux voir à travers l'obscurité.
« Oui, » répondit Fario.
« Je suis un garde de Sar. »« Mais que faites-vous là ?»
s'inquiéta aussitôt le citadin.
« Vite, suivez-moi, il faut vous mettre à l'abri !»
Il fit demi-tour et leur intima de l'accompagner. Aléa haussa les épaules, regarda le capitaine et décida de faire confiance à l'inconnu. Ils se précipitèrent derrière lui et le suivirent de l'autre côté du pont jusqu'à un petit bâtiment où visiblement on réparait les bateaux. Il y avait ça et là des coques, des mâts, des voiles, de grandes planches de bois, des outils, tout un chantier de construction et de réparation.
« Vous êtes complètement fou !»
s'exclama le Tarnéen quand ils furent tous les trois à l'abri.
« Il y a un poste de garde à quelques pas d'ici. Les soldats de la flamme ne cessent de faire des rondes. »
« Alors vous nous avez peut-être sauvé la vie, » répondit Aléa en souriant.
« Mais qui êtes-vous et que faites-vous là ?»
Aléa hésita à répondre. Devait-elle vraiment faire confiance à cet homme ? Certes, il les avait emmenés à l'abri, craignant que les soldats de la flamme ne les surprennent. Mais cela pouvait être une ruse. Pourtant, Aléa ne sentait aucune mauvaise intention chez le Tarnéen. Elle décida qu'il ne servait à rien de se méfier.
« Je suis Aléa Casfad, fille de Félim le druide et chef de l'armée de la Terre.
Vous, Aléa ? Mais qu'est-ce que vous faites au beau milieu de la nuit sur ce pont ?
Je pourrais vous retourner la question.
Moi, je n'arrive pas à dormir. Savoir que la ville dans laquelle je vis depuis ma naissance est passée en une seule nuit dans les mains d'un envahisseur, cela me rend fou.
Je comprends, répondit Aléa. Comment vous appelez-vous ?
Cadrige.
Eh bien, Cadrige, nous allons essayer de vous rendre votre ville.
À vous deux, tout seul ?
S'étonna le Tarnéen.
Non, répliqua Aléa en souriant. Mon armée est postée au sud-ouest d'ici. Nous sommes venus en reconnaissance.
Cadrige fit un large sourire et tendit la main à Aléa.
Eh bien, si je peux vous aider.
Aléa serra sa main. Voici le capitaine Fario. Le Tarnéen salua le militaire.
Et oui, reprit Aléa, vous pouvez nous aider. Vous connaissez les positions des soldats de la flamme ?
Par la Moira ?
Répondit Cadrige en écarquillant les yeux.
« Mais ils sont partout !»«
Ils ont pris le château ?»«
Oui. »«
La caserne ?»«
Bien sûr, et tous les postes de garde. La petite citadelle au nord, le collège des druides. La plupart des habitants sont partis et d'autres s'en vont encore. »«
Et le comte ?»
s'inquiéta Fario. Le Tarnéen fit une grimace désolée.
« Son cadavre est exposé au centre de la place de la raison. »«
Ils ont osé tuer le comte ?»
s'exclama le capitaine, incrédule.
Oui, il a été pendu par les soldats de la flamme parce qu'il refusait de coopérer. Finalement, ce vieux fou était plus courageux qu'on ne le pensait.
On nous a dit qu'ils étaient 3 ou 4 000 hommes. Est-ce que cela vous paraît juste ?
Oui.
Et les soldats de Sar, ils se sont rendus ?
Vous plaisantez ? Ceux qui n'ont pas péri dans la bataille ont été exécutés sur le champ. On raconte que Dancré avait espéré prendre la ville facilement et que la résistance inattendue des Sarrois l'a rendu fou furieux.
C'est en effet pure folie, soupira Aléa. Ils restèrent silencieux un long moment, parce qu'aucune parole ne pouvait exprimer ce qu'ils ressentaient tous les trois. Mais la nuit avançait, et Aléa savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre.
Quadrige, je voudrais voir le canal. Pourriez-vous nous y emmener sans risque, en évitant les postes de garde des soldats de la flamme ?
Bien sûr,
répliqua le Tarnéen.
Enfin, nous pouvons essayer en tout cas.
Alors allons-y. La reine est en train de prendre beaucoup plus de pouvoir que n'en avait Eogan. Si nous ne nous rendons pas utiles dès aujourd'hui, elle nous écrasera sans aucune hésitation. Maintenant que les druides sont avec elle, je me demande même s'il n'est pas déjà trop tard.
Car la Byzanie avait réuni en secret les deux conseillers de son père, qui, comme elle, s'inquiétaient pour l'avenir de la baronnie. Le capitaine Giametta et le bailli Stefano. Isolés dans une petite pièce obscure de l'aile ouest du palais de Farfanaro, ils pouvaient comploter sans risque.
« Si nous laissons mon père gouverner la Byzagne comme il le fait, » reprit la jeune fille, « nous disparaîtrons bientôt sous la bannière de la reine. Et mes chances de me retrouver à la tête de la baronnie seront réduites à néant. »
Le capitaine Giametta acquiesça, les mains crispées par l'angoisse.
Giametta est un lâche. Il est terrifié à l'idée que mon père découvre que nous complotons dans son dos. Mais j'ai tout de même besoin de lui. Sa fierté de soldat ne peut que l'opposer à mon père. Et je peux utiliser cela comme une force.
Nous courons à la catastrophe, en effet,
répliqua le capitaine.
Je crois que le baron est devenu incapable de gouverner. Ma chère Carla, je dois avouer que je suis effondrée de le voir ainsi passer plus de temps dans les orgies grotesques qu'il organise qu'à s'occuper de son peuple.
Et de son armée, surenchérit Carla sournoisement. Je dois lui montrer que je suis moi aussi attachée à l'armée de Byzagne. Je dois le rassurer, faire en sorte qu'il se sente absolument dans le même camp que moi. Tout cela est fort juste, certes, mais que faire ?
Demanda le bailli à l'autre bout de la table. Carla le fixa droit dans les yeux. Puis lentement, elle déclara.
« Nous n'avons pas le choix. Le baron doit mourir. »
Elle n'avait pas sourcillé. Froide, dure, comme si l'idée avait eu le temps de s'installer tranquillement dans son esprit depuis longtemps déjà. Tuer son propre père. Tuer le baron Byzanie.
Et prendre sa place. Je la mérite tellement plus que lui. Après tout, la Gaëlia est en train de passer aux mains des femmes. Aléa, Amine, pourquoi pas moi ?
Vous n'y pensez pas !
S'exclama le bailli Stefano, stupéfait.
Votre père est peut-être devenu un dirigeant pitoyable, mais il reste un ami. Il est hors de question que je participe à un crime de la sorte.
Il se leva brusquement, manquant renverser sa chaise.
Je sais, bailli, je sais. Tu n'es pas encore mûr. Mais quand je t'aurai laissé apercevoir ce que nous pourrons faire sans lui, l'idée te paraîtra moins choquante. Tu verras.
Le capitaine Giametta rattrapa le bailli par le bras et le força à se rasseoir.
Du calme, Stefano, du calme. Nous n'avons pris encore aucune décision. Nous sommes là pour discuter. Carla exagère un peu. Il n'est pas question de tuer le baron.
Vous ne discuterez pas avec moi du meurtre d'Alvaro,
répliqua le bailli en dégageant son bras des mains du capitaine.
C'est entendu, Stefano,
répondit Giametta.
Alors, calmons-nous et trouvons ensemble une autre solution.
Carla lança au bailli un regard amusé. Nul dans la baronnie ne détestait le vieux Byzanie autant que sa propre fille, à tel point qu'elle avait davantage envie de le tuer que de prendre vraiment le pouvoir. Mais cela, elle ne pouvait l'avouer ici.
« Avant de savoir ce que nous devons faire vis-à-vis du baron, »
reprit le capitaine,
« il est important que nous sachions quelle politique nous voulons mener exactement. »
« N'importe quelle politique qui m'amènera au pouvoir et me permettra de me débarrasser de mon père, pauvre imbécile. Il faut se rapprocher de la reine tout en renforçant notre poids politique, »
proposa Stefano qui s'était visiblement calmé.
« En nous opposant à ses ennemis ?»
demanda Carla.
« Pourquoi pas ? » répliqua le capitaine. « Nous pourrions forcer la guerre entre la galaxie et l'Arcour et briser notre légendaire neutralité pour prendre part au combat contre les chrétiens.
Voilà. Je savais que ce serait son point faible. L'armée de Bizagne. La guerre. Il n'attend que ça.
Cela nous rapprocherait peut-être de la reine, intervint le bailli.
Mais je ne vois pas en quoi cela renforcerait notre poids politique.
Car la Bizanie répondit d'un ton assuré.
Parce que cela rappellerait aux Gaéliens que notre armée de mercenaires est de loin la plus puissante de l'île, malgré ce que certains semblent croire.
Évidemment,
ajouta le capitaine, sans comprendre qu'il venait de tomber dans le piège de la fille du baron.
En êtes-vous si certain?
S'inquiéta le bailli.
Mon père a fait bien des erreurs dans sa carrière, mais il y a une chose sur laquelle je dois reconnaître qu'il a toujours eu raison. Le pouvoir de l'argent. La force de l'armée arcourtoise se base sur la foi religieuse des combattants. C'est certes une grande force, mais ce n'est rien à côté de celle que confère l'appât du gain. Celui qui croit en l'argent est bien plus puissant que celui qui croit en Dieu.
Cela reste à prouver, modéra le bailli. De toute façon,
intervint le capitaine Giametta,
notre présence aux côtés de la reine sera un atout décisif. Mes mercenaires peuvent lui garantir la victoire, et c'est ainsi que nous pourrons retrouver notre poids politique. C'est aussi simple qu'une partie de Fitchell.
Absolument, continua Carla. Nous devons la forcer à engager le combat, et ensuite mettre en balance notre participation pour que la reine reconnaisse notre importance. Et que la Gaëlia tout entière sache que c'est moi qui tiens les rênes de la Bizagne.
C'est une décision qui pourrait entraîner la mort de milliers de gens, dit le bailli d'un air grave.
C'est surtout une décision qui pourrait redonner à la Bizagne une splendeur perdue, répliqua Carla.
Nous ne pourrons jamais convaincre le baron d'agir de la sorte.
Nous ne lui laisserons pas le choix, riposta la jeune femme.
Je vous répète qu'il est hors de question que je participe au plan macabre auquel vous pensez.
J'ai bien compris. Mais nous pouvons, dans un premier temps, nous contenter de l'écarter du pouvoir.
Comment ?
J'en fais mon affaire, déclara la jeune femme en se levant.
Elle quitta la pièce sous le regard inquiet du bailli. L'appétit de pouvoir de Carla Bizagni lui faisait de plus en plus peur. Mais il espérait avoir au moins échappé au pire. Erwan fit signe aux soldats de la terre de s'arrêter. C'était à présent une armée de 1000 hommes, et leur chance de passer inaperçue quand ils franchiraient la colline était quasiment nulle. Pour que le plan d'Aléa puisse fonctionner, il allait falloir respecter ses instructions à la lettre. La jeune fille était revenue au milieu de la nuit avec Fario, et ils avaient réveillé tout le campement pour préparer l'attaque. Pendant que les soldats s'habillaient et vérifiaient leur équipement, Aléa avait réuni en vitesse ses compagnons pour leur expliquer la stratégie à laquelle elle avait pensé, puis elle avait donné à chacun des consignes précises. Ensuite, elle était partie avec Fingin pour prendre de l'avance et se placer à l'endroit où ils pourraient ensemble exécuter leur partie du stratagème. Elle avait donc laissé à Erwan le soin de diriger les troupes. Le magistel garda le bras tendu en l'air jusqu'à ce qu'il n'entende plus un seul bruit derrière lui. Le vent se faufilait sur la crête de la colline, à travers les armures des soldats, et faisait claquer la bannière rouge et blanc du Samil Danak au bout des grandes lances. En bas de la vallée, on devinait les contours de la capitale plongée dans la nuit. À présent, il fallait attendre le signal. Aléa avait promis au magistel qu'il ne pourrait pas se tromper. Il s'attendait au pire. Quand il verrait le signal, il comprendrait, avait-elle dit. Et alors il faudrait qu'il charge. Que l'armée de la terre tout entière dévale la pente de la colline pour attaquer la ville par le flanc ouest, par la porte de Cavalia. Il suffisait d'aller toujours tout droit. Après la porte, une longue rue rectiligne les mènerait sur la place de la Raison, au pied du château de Tarnéa. Si le plan d'Aléa fonctionnait, ils auraient alors peut-être des chances de l'emporter, malgré leur infériorité numérique. À quelques lieues de là, à l'exact opposé de la ville, Fingin et Aléa rejoignirent le canal de l'Estan. Ils dépassèrent le pont du Pin pour remonter plus haut encore, aussi loin de la ville que l'était à l'ouest l'armée de la Terre. Quand Aléa estima qu'ils étaient remontés assez loin en amont, ils s'installèrent chacun d'un côté du canal
et se concentrèrent pour assembler le Saïman dans leur corps. Ils fermèrent les yeux en même temps. Aléa se tenait les tempes et Fingin avait les mains croisées devant la bouche. Pour parvenir à leur fin, ils allaient devoir réunir beaucoup d'énergie. Et Aléa était bien heureuse de pouvoir bénéficier de l'aide du druide, car elle n'aurait sans doute pas pu réussir seule. Elle fut la première à rouvrir les yeux. Le Saïman bouillait dans son corps, prêt à exploser. Lentement, avec grâce, elle tendit les mains devant elle, au-dessus de l'eau du canal. Le Saïman glissa le long de ses veines, au bout de ses doigts. La surface de l'eau se mit à clapoter. De petites secousses progressives, comme si un vent avait commencé à souffler dans le sens contraire du courant. Puis les petites secousses se firent vaguelettes, et les vaguelettes se firent vagues. Les bras d'Aléa tremblaient à présent. Elle ferma les yeux de nouveau pour ne pas perdre sa concentration. Le geste, le transfert, lui demandaient tant d'énergie que cela en devenait douloureux. À cet instant, Fingin leva les bras à son tour. Les mains tendues, les doigts crispés, il envoya le flot de Saïman à la surface de l'eau. La force d'Aléa était considérable. Avant même qu'il n'intervienne, elle avait déjà réussi à arrêter le courant et l'eau commençait lentement à remonter dans l'autre sens. Le bruit du Saïman qui frottait la surface de l'eau se fit de plus en plus fort, de plus en plus sourd. Et bientôt ce fut comme si une tempête se déchaînait tout au long du cours d'eau. Aléa sentit la présence de Fingin, le Saïman du druide qui soufflait avec le sien. L'eau du canal se fit de moins en moins résistante. Le courant commençait à prendre. Des gouttes de sueur coulaient sur le front de la jeune fille, glissaient jusque dans ses yeux. Mais elle ne pouvait s'essuyer. Il ne fallait pas qu'elle lâche. La force commençait à lui manquer. Mais ils étaient loin d'avoir réussi. Elle essaya de chercher encore plus profondément les ressources nécessaires. Puis, alors que ses jambes se mettaient à trembler elles aussi, elle redoubla l'intensité de son énergie, donna toute la force qui habitait ses veines. Le Saïman poussa l'eau comme un ouragan. Bientôt le courant fut encore plus fort en sens inverse qu'il ne partait vers l'est en temps normal. L'eau se mit à claquer contre les parois de pierre du canal. Les vagues plongeaient vers l'avant, se soulevaient comme une mer déchaînée. Aléa ouvrit les yeux et vit que de nombreuses torches s'étaient allumées au loin dans la ville. Son plan avait marché. L'estang était sans doute en train de déborder et l'eau continuait d'arriver, s'insinuant dans les rues du quartier, envahissant la grande place comme un raz-de-marée. Mais Aléa ne relâcha pas tout de suite son emprise. Sans arrêter, elle tourna la tête vers Fingin et cria
« Maintenant !»
Fingin, épuisé lui aussi, relâcha ses mains un instant, inspira profondément, puis il leva les bras vers le ciel. Il rassembla un peu d'énergie avec les forces qui lui restaient, puis en hurlant, envoya vers le ciel une boule de feu qui partit exploser au-dessus de la ville. Le druide s'écroula sur le sol, alors que la nuit s'illuminait d'une lueur dorée. Puis des milliers de petites particules lumineuses se mirent à tomber lentement sur Tarnéa, comme autant de lucioles englobant la capitale. Le signal. De l'autre côté de la ville, Erwan hurla
« Al-Ragan !»
Lors, tous les soldats se mirent à dévaler la colline en criant, armes levées, poings serrés, le cœur battant au rythme de la peur et de l'exaltation. Amin, qui refusait à présent qu'on l'appelle reine et exigeait qu'on s'adresse à elle sous le nom d'Aislin la druidesse, était seule dans la petite pièce exiguë en haut du palais de Providence, devant la fenêtre même où Eogan, son mari, avait succombé quelques semaines plus tôt en buvant le poison qu'elle avait glissé dans son verre. Debout devant la fenêtre, les yeux perdus dans le lointain, elle riait. Et c'eût été un rire ordinaire s'il ne s'était accompagné de larmes. De grosses larmes qui coulaient de ses yeux.
« Tais-toi !»
hurla-t-elle soudain en se tenant la tête. Son cri s'étouffa entre les murs de la petite pièce. Elle se mit à rire de nouveau, puis ce rire s'éteignit lentement, se terminant enfin par une quinte de toux. Amin pencha la tête. Elle tendit l'oreille. Les yeux écarquillés, elle semblait écouter un son distant. Un murmure lointain. « Pardon ?»
chuchota-t-elle. Elle plissa les yeux, comme pour mieux entendre.
« Que dis-tu, Eogan ?»
Le rythme de sa respiration se mit à accélérer. Sa poitrine se soulevait et se baissait nerveusement. Elle entendait une voix dans sa tête. Une voix qui se noyait dans un écho insupportable. C'était sa voix, celle d'Eogan. Le défunt roi parlait dans sa tête.
« Petite catin, regarde par terre. Regarde par terre, Amine. Allons, regarde. »
Elle baissa les yeux, puis elle poussa un cri en découvrant sur le plancher une tache de sang. Une petite flaque rouge, poisseuse. Amine fit un pas en arrière. La tache de sang était en train de grandir. La reine recula encore un peu, mais le sang continuait de se répandre sur le sol, suivant les veines du bois comme autant de rivières.
« Alors quoi? La vue du sang te fait peur maintenant ?»« Mais c'est toi qui l'as fait couler, ce sang, Amine. Regarde !»
La tache ne cessait de grandir. La reine fit un nouveau pas à reculons. Ses lèvres et ses mains tremblaient. Ses joues étaient pâles comme celles d'un mort. Des gouttes de sueur glissaient sur son grand front.
« Non !»
cria-t-elle, mais le sang continuait d'avancer, de s'étendre lentement. Il remplissait à présent un quart de la pièce.
« Mais c'est mon sang, Amine. Et tu sais, petite catin, tu sais, il est empoisonné. Si tu le touches, tu meurs !»
Elle recula encore. Soudain, elle heurta un tabouret derrière elle et tomba à la renverse. Son dos percuta violemment le sol. Pendant un instant, elle crut qu'elle avait perdu connaissance. La voix s'était tue dans sa tête. Elle ne voyait plus. Elle sourit. Elle imagina qu'elle était morte, libérée. Puis lentement, la lumière apparut de nouveau. Le plafond se dessina au-dessus d'elle et il semblait tourner comme un manège.
« Tu vas toucher le sang, Amine. »
Elle pencha la tête. La tache rouge avançait vers son visage. Inexorablement, elle progressait sur les planches du parquet. Et dans un instant, elle serait sur elle. Amine poussa un cri et roula sur le côté. Elle se releva péniblement et se réfugia sur un fauteuil. Elle s'assit en tailleur pour ne plus toucher le sol.
« Tu ne sais plus où te réfugier, Amine. Tu ne sais plus que faire. Tu as cru que tu pourrais te débrouiller sans moi, n'est-ce pas? Mais maintenant que les druides t'ont fait l'heure, « maintenant que mon meurtre t'a fait traîne, maintenant, que vas-tu faire, Amine? Quel rêve défends-tu? Quel combat? Et qui te succédera, Amine, toi qui n'as plus d'époux pour te donner un enfant? Tu as vraiment cru que tu pourrais te débrouiller sans moi ?»
Les bras serrés autour de sa taille, les yeux fermés, tout son corps tendu d'angoisse, elle essayait de chasser la voix de sa tête. Mais elle était de plus en plus forte. Plus rien ne pourrait l'éteindre. Quand elle ouvrit les yeux de nouveau, elle vit que la tache de sang avait rempli toute la pièce et commençait maintenant à monter le long des murs, en bas des meubles. Elle baissa les yeux et vit la vague rouge qui gagnait les pieds de sa chaise. Le sang empoisonné montait vers elle. De l'autre côté du couloir, dans la grande blanchisserie, une servante entendit soudain un hurlement strident.